Bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Business Club. Et aujourd'hui, on est nombreux en cabine. On se retrouve avec toute l'équipe de la All Parisian Game. À mes côtés, toujours Mam. Comment tu vas, Mam?
Très bien. Et vous?
Ça va super. Comment ça va tout le monde?
Ça va. Merci bien.
Donc, comme je disais, on est nombreux autour de la table. Donc, je vais commencer tout simplement par vous demander de vous présenter à tour de rôle.
On va laisser honneur aux dames.
Yes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Salima Tassila, j'ai 24 ans et j'ai grandi dans le nord de Paris, dans le 18e, 19e et 20e arrondissement. J'ai commencé le basket quand j'avais 11 ans et je continue d'en faire. Ça fait partie de ma vie et je fais partie du collectif All Parisian Games depuis 2016.
Ok. Paul.
Bonjour à tous. Paul O'Donna, 41 ans. Habitant du 19e, cofondateur des All Parisian Games, également cofondateur de l'agence créative Panagone, et voilà. Et fan de basket, pas joueur par contre, mais fan de basket depuis mon plus jeune âge. Et voilà, c'est ce qui
t'as jamais joué, t'as jamais touché au ballon?
Si, j'ai joué, mais bon, faut quand même respecter le basket. Comme on est fan, on sait ce qu'est le sport et les sacrifices que ça demande. Donc, moi, c'était pas mon cas. J'étais un passionné. Je jouais sur les playgrounds, dans les gymnases et tout. Un petit peu de club très jeune, mais jamais pas de haut niveau, quoi. Donc, voilà.
Bakary Sako, donc 41 ans, je suis habitant du 19e, pareil, depuis 41 ans. Je me définis simplement comme étant un villageois dans son village, et peu importe les actions que je mène, ils ont juste une idée d'action politique et de volonté d'agir sur son territoire.
Ok. Ce qui vous a réunis tous les trois, c'est la passion du basket.
Ouais, c'est un des points communs. C'est la question. Alors, plus que la passion du basketball, c'est surtout la culture basket qui nous a parlé, parce qu'il n'y a pas d'athlètes de haut niveau parmi nous. On a tous pratiqué un peu en club. Certains ont pu aller un peu plus loin dans les compétitions. Mais le point de convergence, il est l'amour d'une culture, une culture qui, pour nous, nous a tellement impacté dans la définition de ce que nous sommes aujourd'hui, qui avait la volonté de vouloir la déployer, la partager et lui donner toujours cette dimension animation et impact politique en réalité.
Ok. Même toi, tu as joué un peu au basket ou amateur de basket peut-être?
Non, comme l'a dit, on va respecter le basket aujourd'hui. Non, pas un joueur. Après, moi, par rapport au sport, ce qu'on aimait bien faire, c'était des concours genre à 3 points. Mmh. Et je me débrouille pas mal. Ça, c'est la seule chose que je peux faire. Après, pour se manger un cross ou un truc comme ça, laisse tomber. je ne joue pas.
On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment vous est venue l'idée de créer cet événement qui est la All Parisian Game?
Allô?
Ok. Si on revient à la genèse de ce projet, donc la première édition a eu lieu en 2013. Mm-hmm. Les premières discussions qu'on a avec Bakary et d'autres potes, donc l'année précédente, en 2012, sont liées à la valorisation de la jeunesse. En fait, on a un projet qui existe déjà, on organise des projections de films, on organise des tournois, des stages pour les jeunes. Du nord-est parisien essentiellement, et suite à des discussions, on cherche un moyen de valoriser la jeunesse, essentiellement les filles, enfin les garçons et les filles, mais même si aujourd'hui c'est quand même assez évident, voilà, on a eu la chance en France d'accueillir une coupe du monde de football féminin, on en parle beaucoup plus dans les médias, mais en 2012-2013 c'est pas du tout
la même ampleur,
le même intérêt. Très peu de médias ont de l'intérêt pour le sport féminin à cette époque, même les spectateurs, les fans de sport en parlent très peu. Et nous, en tant que fans de basket, on est quand même un sport qui est à l'origine nord-américain, donc on regarde beaucoup plus ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique que les sports européens. Et donc on le voit pas dans les années 2010, mais depuis très longtemps. Aux États-Unis, la valorisation du basket féminin, la valorisation des jeunes à travers des événements comme les Jordan Brand Classic, les All American Games, les tournois de manière générale en été, toutes les Summer League et tout. Et voilà, ça fait partie, comme le disait Bakary, de notre culture, de la culture basketball. Ça va au-delà de la performance et de la compétition. Il y a toute cette idée d'une culture qui représente finalement pas mal de disciplines, de thématiques, l'événementiel, la musique, le lifestyle et tout. Et on a fait tellement de réunions nocturnes, hein, surtout, je ne peux pas vous dire à quel moment on passe le cap, mais en tout cas, on a ces réflexions. Et un soir, Bakary dit, les gars, vas-y, on va monter... Un All-Star Game. En gros, pour répondre à toutes ces problématiques, on va monter un All-Star Game de jeunes. Et voilà. Et de là, par l'aventure, avec quelques mois de réflexion sur le concept, sur le nom et tout ça. Et puis après 2013, la première édition de l'événement qui n'était pas encore les All-Parisian Games. Petit aparté, c'est les All-Parisian Games. C'est vrai ouais, mais t'es pas le premier. Puis nous, on laisse un petit peu on laisse les gens se réapproprier le truc. Donc des fois, les gens disent la All Parisian, le All Parisian, Games, pas Games. Mais on s'en fout parce qu'on est plutôt content que les Parisiens ou les Franciliens de manière générale se sont appropriés le truc. Et chacun le donne un petit peu à sa manière. Voilà, bon là, on discute de manière un peu plus formelle. Donc je me permets de te corriger. Et à l'époque, donc, il ne s'agissait pas encore des All-Parisian Games, mais du All-Star Game Junior Île-de-France. Voilà, c'était le nom qu'avait l'événement au départ. Voilà, ça explique le concept, en tout cas pour les gens qui sont familiers au basket, tu n'as pas besoin d'expliquer, ils comprennent de quoi il s'agit. Et ça a duré 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans. Et après, en 2017, 2016, il y a des réflexions avec Bakary de comment faire évoluer l'événement.
Okay.
Voilà, on était content du format, mais on aime bien se remettre en cause. Et quand il y a des choses qui nous plaisent moins, on se le dit. Voilà, on a cette culture du brainstorm, de l'échange, de l'humilité, qui fait que quand il y a quelque chose qui nous va un peu moins, ben on se le dit. Et on a passé encore des heures et des soirées à brainstormer pour se dire c'est cool mais il manque quelque chose, on va passer à l'étape suivante. Et après des heures de réflexion, le All-Star Game devient les All-Parisian Games en 2017, mais c'est le même événement.
Aujourd'hui, je pense que vous en tirez aussi des bénéfices économiques.
Ouais.
À quel moment déjà il y a eu cette étape de franchie, et est-ce que ça a été un objectif dès le départ ou c'est venu avec le temps?
Alors dès le départ, il y avait l'objectif de créer un modèle économique. On reste ultra cohérent. Ça fait, on est en 2022, en fin d'année, j'ai 42 ans. Et depuis que j'ai 16 ans, pour ma part, je suis dans le milieu associatif. Depuis qu'on a 20 ans, avec Paul, on est des acteurs associatifs issus des quartiers populaires ou au monde des actions qui nous définissent en tant qu'hommes, femmes, noirs, jeunes, dans les quartiers populaires français. Et donc, dès le début, dès les premières réflexions, il était hors de question de ne pas penser ce projet, d'abord, de manière indépendante, déjà, c'est une question politique, c'est-à-dire qu'il était hors de question de se retrouver à monter un projet, mais qui va dépendre de la volonté de celui qui veut bien le soutenir financièrement. Ah, c'était mort, ça. Il fallait bien que, dès le début, on trouve le moyen de se dire, est-ce qu'avec 1,50€, on peut le faire? Oui, on peut le faire, alors on y va. Et comment on peut le faire, finalement? Pas avec 1,50€, mais avec 1,50€ fois 20 pour que le projet soit beaucoup plus impactant. Et oui, la question économique et sociale n'ont jamais été dissociées. Et la partie sociale, c'était la promotion de la culture, faire en sorte que, très clairement, 1% des licenciés en France, 1% des millions de licenciés finiront pro, vont vivre de leur activité. Et qu'est-ce qu'on fait des 99% restants ? On a joué au basket quand on était jeune. Moi, j'ai joué parce que je suis tombé amoureux de la Dream Team en 92. Et à 12 ans, je me mets à jouer au basket. Pendant un an ou deux ans, j'ai commencé à me dire, je crois que je vais devenir pro. J'ai commencé à rêver moi aussi parce que j'étais devenu un peu talentueux. J'étais nominé parmi les jeunes sélectionnés à Paris dans les années 95-96. J'ai commencé à rêver. Après, la réalité m'a rattrapé. Impossibilité de devenir un pro, encore moins un joueur NBA. Et donc, c'est une réalité qui touchait la génération avant moi. La mienne et celle qui a suivi la nôtre. Donc, 1% ne seront pas des pros. 99%, il faut bien qu'on fasse un truc avec eux. Et là, c'est bien de donner la parole à Sally là maintenant, parce que Sally fait partie de cette génération qui arrive chez nous, qui est sélectionnée, qui finit MVP, qui va jouer au presque, qui va atteindre un certain haut niveau du basket féminin, qui va faire un pas en arrière sur son sport pour des raisons qui la concernent, mais qui reste dans le milieu du sport et qui finit aujourd'hui par en vivre. Donc son métier aujourd'hui, c'est le milieu du sport et en particulier du basket en plus. Donc oui, ça avait été pensé il y a 10 ans et on est content de voir le résultat tout doucement émerger. On a un modèle économique, on est indépendant aujourd'hui. Alors oui, certains partenaires, s'ils nous lâchent, ça va créer des difficultés, mais ça n'empêchera pas d'organiser l'événement. C'est ça la réalité. Oui, tu perds de l'influence si jamais tu ne peux plus recevoir les LeBron James. Bah ouais, c'est les LeBron James à côté, donc tu vas perdre de l'influence. Mais est-ce que ton événement, il peut continuer à vivre ? Bien entendu.
Tu parles de LeBron James et des basketteurs que vous avez pu amener aussi, je pense, grâce à votre sponsor. Mmh. Est-ce que déjà, vous pouvez nous parler plus en détail de votre sponsor ? Comment il est venu vers vous ? Comment vous l'avez attiré ? Est-ce que c'est vous qui avez démarché ? Est-ce que c'est l'ampleur de l'événement qui a fait que ? Comment ça s'est passé ?
Je fais un début de réponse. Après, je vais laisser Paul poursuivre. Sans rentrer dans des détails ultra techniques, si on garde qu'en surface l'idée qu'il y avait un événement qui était cohérent pour un sponsor qu'on n'a pas sollicité.
Okay.
On n'a pas fait la démarche d'aller chercher un équipementier en particulier. On avait déjà des premiers sponsors à l'époque, Spalding, Kawanix, Under Armour. À l'époque, un ami avait une petite boutique spécialisée basketball au début des années 2010. Et c'était ça les sponsors que nous avions. Plus, et là très clairement, Paul et moi, et c'est qu'il faut quand même qu'on remette bien les choses à leur place, Paul et moi avons sponsorisé les All Parisian Games. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'on s'est privé d'aller en vacances ou de s'acheter une des paires de Jordan qui nous tenait à cœur en 2013, 14, 15. Mais on a mis nos propres sous dans l'événement. Donc on est sponsor, on est les propres mécènes, producteurs et propres mécènes de notre événement. On n'a pas gagné un centime d'euro à cette époque-là. Et la cohérence, elle a été tout de suite. Il y a un événement qui pèse ultra lourd en France qui s'appelle le K54. Et je dis en France, en vérité à travers le monde, c'est un événement qui pèse ultra lourd. Et un second événement arrivé avec une touche un peu plus jeune, un peu plus dynamique, mais surtout avec un ancrage territorial. Mmh. Ça veut dire que nous, il était hors de question, même dans les propositions qu'on a eues, d'aller en dehors du 19e.
Okay.
On s'est dit, c'est chez nous ici. D'abord, c'est notre slogan. Le PSG dit, ici c'est Paris, et nous on dit, ici c'est chez nous. Et qu'on reçoit Michael Jackson ou un autre invité, et ben ça se passe au sein de notre gymnase. Il n'y a pas besoin de plus de sécurité que ça, parce qu'on maîtrise totalement notre environnement, notre communauté, notre public, et on lui a donné, pas le nom, nos noms de famille, l'événement ne s'appelle pas les Odona Sacco Games, c'est les All Parisiens, c'est les Parisiens, les Parisiennes, et c'était l'amour de notre territoire, l'amour de la culture basket, qui fait que tu as un équipementier. Donc, tu as un Nike, tu as un Jordan, dont la raison pour laquelle ils sont nés, c'est la question du storytelling en réalité, tu vois. C'est l'amour de comment je raconte une histoire qui va toucher mon public, mes athlètes, et les gens vont se réapproprier le projet. Ben, c'est les All Parisian Games, précisément.
Mais vous ne pensez pas que vous vous limitez en se disant que ça doit rester, entre guillemets, pas sectaire, mais le fait de rester dans le 19e, alors que je pense que vous pouvez être sollicité pour organiser ça dans d'autres villes. Vous ne pensez pas vous limiter dans l'ampleur de l'événement
on a eu des propositions qu'on a refusées, je te dis très clairement. Le but, c'est d'être des consanguins. C'est ça, mais clairement. Mais tu vois, chaque projet a sa raison de se développer, d'émerger et d'ouvrir ses tentacules. Nous, par rapport au storytelling, ça c'est vraiment le domaine de Paul. Lui, c'est un forceur sur ces questions de quels mots tu mets sur l'histoire que nous voulons raconter, où est-ce que tu vas jouer ton événement et pour quelles raisons tu vas le jouer de cette manière-là. Et pour nous, il n'y a aucune raison d'aller... prendre les Halles parisiennes, bah, tu ne veux pas le jouer à Toulouse. Tu veux pas, même si demain Monaco te dit je mets 1 milliard d'euros sur la table, on va trembler. Clairement, on va commencer à vibrer dans tous les sens, mais ça n'aura pas de sens d'aller à Monaco jouer les Halles parisiennes game. Donc il va falloir trouver la bonne histoire qui fait que de Paris, tu te retrouves à Monaco et tu devras justifier que ce n'est pas pour l'argent que tu le fais, mais c'est parce qu'il y a une cohérence dans ton projet. Et bien là, on ne se limite pas du tout, c'est juste que le nord-est parisien est un territoire hyper cohérent de la culture basket parce qu'il y a des hommes et des femmes, des joueurs et des joueuses qui sont nés là ou qui ont pratiqué ici. Le gymnase Jean Jaurès, c'est un bâtiment classé patrimoine culturel. C'est un ancien bain-douche, donc c'est un immeuble qui a un siècle. C'est un immeuble dans lequel les Moussonko, Amarassi, Tirizig et voilà les basketteurs sont passés par là à l'époque, mais il n'y a pas eu de visibilité parce qu'en France, on fait du sport, mais on n'a pas la culture de raconter des histoires. Donc jamais tu vas avoir un documentaire, ou, sauf si nous on le fait, un documentaire sur le 19e, sur le gymnase Jean Jaurès, pour dire qu'est-ce qui s'est passé ici pendant 40 ans en termes de basket. Si ce n'est pas nous qui ramenons l'histoire, bah, personne ne va le faire. Et bien, bah, tu vois, la cohérence, c'est quoi? C'est que depuis des années, c'était plutôt sur la rive gauche que se passait la culture basket. Et bien, bah, par les Halles parisiennes game, on domine totalement maintenant l'influence de la culture basket. Parce que même Amadou Thibault, donc fondateur du K54, quand ils font la promo de l'édition 2019, et bah, le lancement il se fait sur le 19e avec Jason Tatum. Quand on reçoit les 3 premiers joueurs NBA en 2017, et bah, ça s'enchaîne directement en disant on a une OP, une tournée avec Kobe. Et bah, c'est ultra cohérent de le faire dans le nord-est parisien. Parce que c'est ici que ça transpire la chaleur, les oignons, la dureté des gens qui n'ont pas accès au NBA Paris et encore moins à un match à New York au Madison Square Garden. Donc c'est ici que ça se passe. Parce que nous, on vit cette culture. Mais on ne la vit pas par le biais des moyens économiques. On le vit par la passion, en réalité. Donc, on regarde les highlights, on suit les joueurs. On est attaché à un joueur en particulier parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il nous ressemble quand on l'écoute parler, le quartier duquel il vient. Exactement. Et c'est ça, le nord-est parisien. Et il n'y a aucun autre arrondissement, en tout cas, qui peut concurrencer le 19e aujourd'hui. Et je défie ceux qui veulent me concurrencer.
j'aime beaucoup l'approche, mais après, il y a des mots-clés que tu as utilisés. Donc, tu as utilisé surtout le mot culture, le mot basket. Il y a des marques avec lesquelles tu collabores, hein, vous collaborez, que ce soit Nike et aujourd'hui Jordan qui, petit à petit, fait aussi son nid en plein Paris. Hein, je vais reprendre un peu ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, il mise sur 2 équipes nationales qui sont les États-Unis, son pays, et la France, parce qu'il sait que la France, le vivier est exceptionnel, est vraiment exceptionnel. La qualité, je pense, de formation, que ce soit l'INSEP ou même ce que veut faire Tony Parker ou autre, ce qu'on peut retrouver dans les quartiers, fait qu'on a une réelle chance, entre guillemets, sur les 5, 6, 7, 8 prochaines années de voir un impact hyper important. On voit le nombre de joueurs qui sont aujourd'hui en NBA. Et justement, comment vous, entre guillemets, vous positionnez sur ce fait-là? C'est-à-dire qu'économiquement, il y aura des enjeux, forcément. Il y a les JO qui arrivent. Encore une fois, on voit que le basket arrive à se battre. Hein. On a voulu les mettre dans une salle qui n'est pas vraiment une salle, entre guillemets, hein, désolé. Mais il y a des changements qui vont être apportés. Et comment vous voyez ça aujourd'hui? C'est-à-dire que vous pouvez être acteur auprès de ces marques-là, et c'est même plus, entre guillemets, une réflexion pour elles, c'est de dire aujourd'hui, on va directement vers vous. Donc comment vous voyez en tant qu'acteur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes limite, je pense que vous êtes interrogé par les marques, hein, clairement, puisque il y a des besoins. Donc comment vous vous situez par rapport à ça?
Bon, j'essaie de trouver les bons mots pour te répondre. La question de l'impact territorial et de la localisation, elle est hyper importante pour ces marques. Et comme le disait tout à l'heure Bakary, quand on a développé ce projet, on n'avait pas la volonté d'aller chercher un sponsor. On a eu, via notre réseau, des soutiens et les marques qu'a cité Bakary tout à l'heure. Mais il n'y avait pas la volonté de monter un dossier et d'aller chercher le top 3, enfin top 4 équipementiers, les marques que j'ai pas besoin de citer, que vous connaissez. Il y avait la volonté de produire cet événement dans un lieu qui nous est familier, et on a construit autour de tout ça le storytelling, on va dire, de manière plutôt naturelle. C'est-à-dire qu'on avait l'environnement, on avait la culture, on avait le vivier, et dès le départ, on a ouvert l'événement à tous les franciliens. C'est-à-dire que même si on a un attachement très fort à notre territoire, le 19e et le nord-est parisien de manière générale, donc du 18 au 20, évidemment, avec le 10e, enfin voilà, c'est ça notre territoire d'action ou d'expérimentation, l'événement était tout de suite très fédérateur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mentionné dans quelconque communication le 19e ou le 18 ou autre. Ça a toujours été un propos fédérateur. Mais on l'a fait chez nous. Déjà, un, parce que ça s'est fait de manière naturelle. En termes de logistique, c'était aussi facile. Et en fait, on avait déjà l'histoire qu'a commencé à raconter Bakary. Pour les marques donc, qui sont venues nous voir, et puis d'abord Jordan, les premières discussions qu'on a eues quelques mois avant le premier partenariat, ouais, en 2016, c'était avec Jordan Brand. Et voilà, comme tu le disais, bon, nous, entre-temps, on a développé une activité d'agence, et donc on collabore avec des marques, avec des institutions aussi, on va dire de manière notoire avec la NBA, avec la FFBB, avec la ville de Paris. Et ce qui semble un peu évident, enfin même pas un peu, ce qui est totalement évident, c'est d'utiliser, enfin de la manière dont on a utilisé ce territoire comme je me répète, un laboratoire d'expérimentation. Et nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, eh ben on a intérêt aussi à ce que les choses se fassent là où la jeunesse en a le plus besoin. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement tenter de décupler. Et oui, aussi, on est sollicité, pour la marque All Parisian Games. Pour nous, ça n'a pas de sens de la délocaliser. Maintenant, en marque blanche, on travaille pour des institutions et des marques pour les accompagner sur le storytelling et sur l'événementiel. Mais tant qu'on peut le faire dans le nord-est parisien et la porte vers le Grand Paris, le 93, on va le faire parce que... alors j'ai pas de statistiques à vous donner, mais je pense que c'est des chiffres qu'on peut trouver sur tout sport confondu. La présence d'athlètes, de prospects, de futurs athlètes de haut niveau sur ce territoire, le nord-est parisien et le 93. Et c'est là où les jeunes en ont le plus besoin. C'est là où on doit animer le territoire, pas que pour les jeunes, mais pour les habitants de manière générale. Ils ont droit à ce que les choses se fassent chez eux. Et comme l'a dit Bakary, en tout cas, si on part sur la culture basket, le curseur s'est déplacé aujourd'hui. Pas que nous, mais pas que par rapport à nous, je veux dire, mais vous pouvez le constater, avant 2010, jusqu'aux années 2010, tout se faisait sur la rive gauche. Carpentier, Levallois, Coubertin, voilà. Depuis quelques années, il n'y a pas que nous, il y a le Parisian Games évidemment, il y a la Hoops Factory à Aubervilliers, il y a le terrain de Pigalle, donc qui est voisin, il y a le playground de Stalingrad, il y a Maison Château Rouge qui a eu une des collabs les plus fortes avec Jordan Brand, le 18e, il y a également Adidas qui travaille sur le football, alors, pas que dans le 19e, mais je veux dire sur le nord-est parisien de manière générale. Il y a le PB18 qui est soutenu par Jordan Brand. Il y a la ville de Paris qui a investi beaucoup dans la rénovation des playgrounds sur le nord-est parisien, et on les accompagne aussi avec l'agence dans ce sens. Donc il y a des raisons démographiques, il y a des raisons culturelles, pense que l'une des ah oui, j'ai oublié l'arena, enfin l'arena 2 qui arrive à qui Porte arrive de la Chapelle. La porte.
La Didas Arena bientôt peut-être.
Bah, c'est pas encore officiel, à moins que tu aies des infos à nous donner, mais voilà, c'est.
Ça se bagarre,
ouais. C'est ce qu'on entend, en tout cas, voilà, c'est pas encore passé au conseil de Paris, mais ça risque d'arriver. Peu importe qu'on soit fan de la marque ou pas, évidemment, il y a des détracteurs qui veulent s'y opposer, mais aujourd'hui, ça montre une fois de plus qu'une marque, alors si on parle en termes d'équipementier, dans la première, deuxième, selon les sports, en tout cas, voilà, dans le top 3 des équipementiers mondiaux, en termes de valorisation de marque, peut-être dans le top 10 mondial, peut-être, qui décide de nommer, de brander une arena dans le 18e arrondissement, à quelques mètres de la colline au crack. Ouais. Donc, il y a des choses qui nous dépassent, que ces gens ont compris depuis très longtemps, et qui est la diversité, la démographie, diversité culturelle, ethnique, ce que vous voulez, et qui fait que c'est un vivier énorme en termes de sport, en termes de culture, en termes de musique, en termes de lifestyle. Et les Américains l'ont compris avant nous, depuis très longtemps, hein. Enfin, en tout cas dans le milieu du divertissement et du sport. Et là, ça switch un petit peu depuis quelques années. Et peut-être que, alors évidemment, les premières dynamiques, malheureusement, elles sont, enfin malheureusement, heureusement pour les Parisiens, mais peut-être malheureusement pour nous en tant que Français, elles sont faites par des acteurs anglo-saxons, américains. Les premiers qui ont investi dans les quartiers ou dans les événements urbains, ce sont une fois de plus des marques américaines. Maintenant, ça change parce que les institutions valorise cette culture et ces populations, et je pense que le futur, enfin pas je pense, c'est la réalité, le futur du sport français, tout sport confondu, et peut-être le futur du divertissement à la française vient des quartiers populaires.
Non, c'est vrai. Après, il y a un vrai côté, je pense, entertainment au tout début. Après, je pense que ce qu'on a entre guillemets à Paris ou sur la périphérie, c'est le côté où nous, ce qu'on aime, c'est les tournois, en fait. Tu vois, genre, quand tu regardes, bon, j'ai grandi un petit peu dans le 19e, hein, le gymnase, je le connais très bien. J'ai grandi quai de la Loire, j'étais à Tendou, donc je vois très bien l'esprit.
Bon, on va faire un café après à la fin de l'émission. Là, on enchaîne la troisième émission.
Je vois très bien, mais c'est vrai que nous ce qu'on aime, voilà, c'est les tournois. Tu vois, quand tu vas encore aujourd'hui, les dimanches, si tu vas par exemple plutôt vers Ballard, t'as des mecs, ils arrivent, il est 11h, ils vont rentrer chez eux, il est 22h, parce qu'ils vont se fâcher parce qu'ils n'ont pas les bons joueurs parfois, mais ça va tourner, c'est ça en fait. Et nous, ce qui nous manquait, je pense, c'était plus la culture entertainment. Et aujourd'hui, les marques qui sont en train, pour moi, d'attaquer le marché de manière assez agressive, hein. Jordan, je pense que ça fait déjà depuis 3-4 ans qu'il est assez solide. Ils ont su avoir un impact auprès des gens, une certaine sensibilité en ramenant des acteurs qui venaient ici. Vous avez pu le vivre, hein. Je pense que même si on s'est organisé, quand t'as un LeBron qui débarque, t'as tout le monde qui veut venir dans ta salle, tout le monde qui te dit ah, aujourd'hui faut que tu me mettes premier rang, faut que je fasse ma photo avec LeBron et tout. Et en fait, ce côté-là qui nous manquait un petit peu, il est en train d'arriver, sauf qu'on commence à avoir entre guillemets des experts. Aujourd'hui, je pense que vous avez une expertise et une sensibilité qui fait que, ok, il y a le côté, on est associatif, mais il y a le côté business, vous avez monté une agence, et aujourd'hui, les États-Unis, des agences, il y en a un paquet. En France, tout le monde aujourd'hui qui a bossé pour n'importe quelle marque dit, ah, vas-y, moi, je vais monter mon agence parce que j'ai tel prestage, j'ai tel truc et tout. Donc là, on arrive aussi sur un gros côté concurrentiel. C'est un peu drôle parce qu'il y a des gens qui pensent, ouais, c'est bon, j'avais tout le monde, j'ai le carnet d'adresses, je vais arriver, ils vont m'arranger. Mais non, c'est pas comme ça, c'est le réseau, c'est le business. Ça marche comme ça, c'est très clair. Mais là où on vous tire votre chapeau, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est que vous avez une expertise, une sensibilité, un vécu. Quand l'intro commence et on me dit ça fait 42 ans que j'habite dans le 19 et je suis né il y a 42 ans, c'est un storytelling. Et c'est ça que les gens veulent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de mouvements qui doivent être apportés. Par exemple, en vue des JO. Les JO, c'est un impact pour les avoir vécu deux fois qui est incroyable. Moins Tokyo, mais Rio, incroyable. C'est Disneyland pour nous en tant que sportifs. Sur les infrastructures, sur les gens qui sont présents. Là, on va les vivre à la maison. Et ça doit être un réel message pour cette jeunesse-là. C'est-à-dire que pour les athlètes qui sont présents sur les Jeux, on sait qu'on on s'est beaucoup entraîné, on est là, on est entre guillemets, ce qui se fait de meilleur. Mais la vérité, c'est que de base, il y a une histoire. On ne vient pas tous des mêmes endroits. Une vérité aussi, c'est que les intramuros, les gens qui réussissent dans le sport, il y en a moins que les gens en banlieue. Mais pourquoi ? Alors que pourtant, les infrastructures, on les a. Comme vous avez dit tout à l'heure, les lieux où on peut faire des tournois et autres, on a tout ce qu'il faut. On a les écoles, on a tout. Il y a tout qui roule. Mais pourquoi, à l'intérieur de Paris, c'est difficile ? Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et ça, c'est des choses qu'il faut arriver à changer et que vous pourrez peut-être changer. Et en tout cas, je vous le souhaite. Et c'est là où nous, ça aussi, ça nous intéresse, c'est de pouvoir aider cette jeunesse qui est aussi très très parisienne et le reste aussi, hein, mais très très parisienne. Vous avez un projet qui est très local, mais peut-être de permettre à plus de gens de comprendre et d'essayer aussi, parce que parfois les gens n'essayent pas forcément. Et on se rend compte que dans Paris, les acteurs, que ça soit basket, foot ou autre, ils sont tellement peu nombreux qu'ils sont identifiés. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas beaucoup, mais ils sont peu nombreux, on les identifie très rapidement.
Mais en parlant des JO, est-ce que on doit s'attendre à des activations de votre part ? Et à quel type d'activation on peut s'attendre ?
On est sur deux choses en ce moment que l'on travaille. Là, c'est alors la première, c'est au titre de l'agence, on accompagne la ville et des groupes privés, gros groupes privés, sur les rénovations des playgrounds avec design artistique. Donc en gros, 70-80% des nouveaux terrains que vous voyez émerger avec une œuvre artistique, on est derrière, on accompagne, on conseille. Et donc ça fait le point qu'on traite depuis tout à l'heure, la question de l'ancrage territorial. Mmh. C'est parce qu'on a tellement travaillé, nous, sur la question de sauver le playground de Stalingrad, qui était amené à disparaître, donc playground historique, 1994.
Il y avait une pétition d'ailleurs.
Alors c'était pétition, mais surtout c'était l'engagement par un financement public, okay, qui est le budget participatif. Et donc budget participatif, on a monté un dossier, donc avec la génération de Sally, qui Sally était la présidente du programme Oasis Sportive, rénovation de terrain à Paris et en Afrique, dans les quartiers populaires et sur le continent africain. Et il fallait un effet miroir. D'abord un terrain sur Paris et ensuite un autre sur le Sénégal. Et là, on est en 2016. Stalingrad est amené à disparaître et on monte au créneau politiquement en disant il y a une histoire trop forte avec cet espace de jeu qui, oui, certes, a été abandonné avec le temps parce que mal entretenu, pas nettoyé, pas d'activation dessus, pas de développement de programme. Eh bien, les usages ont été détournés. Mais Stalingrad reste Stalingrad, les migrants, les toxicos, le crack, tristement célèbre. En 2017, on monte un dossier et ce dossier veut que s'il est retenu par la ville, il faut que maintenant les habitants votent. Donc on a fait toute une campagne, la vidéo, on a pris les gamins, on les a mis sur des Vélibres pour aller faire voter les familles, donc on a harcelé tout le monde. On a eu le meilleur score de vote à Paris sur un projet local. Ça a débloqué quelques centaines de milliers d'euros qui a fait qu'on a repris totalement le terrain de Stalingrad et il a été designé par notre agence. De là, on est interpellé par la ville de Paris, le président de la Fédération de basket en direct et le groupe de la BPCE pour réfléchir ensemble sur le 3-3 rentre au JO et comment on permet d'un côté pour la ville que Paris soit une capitale culturelle du sport pour accueillir les JO et pour la Fédération de basket augmenter son nombre de licenciés et faire en sorte que le basketball, via son entrée dans les JO, continue à se développer. Et Paul, on dit clairement, et les jeunes, eh ben, c'est l'histoire de Stalingrad qu'il faut simplement reprendre. C'est sa continuité en réalité. On vous a offert un travail gratuit pendant plus de 2 ans, mais c'est dans notre intérêt à nous, parce que c'était l'amour de notre territoire et c'est un héritage pour nos gosses. Et très clairement, la première vidéo qui a permis la campagne, c'est un de nos enfants, le nôtre, de sang, qui est dans la vidéo et qui dit « Mon père et ses amis ont toujours joué à Stalingrad, mais ma mère ne voulait pas me laisser y aller parce que c'est un endroit qui est dangereux. Mais maintenant, je suis un peu plus grand, je peux y aller. » Sauf qu'il arrive, il n'y a plus de terrain. Et donc là, on bosse ensemble le terrain. Et ce gosse est à l'inauguration pour couper le ruban et dire « C'est bon, c'est le terrain de mon père et de ses amis. Et aujourd'hui, ça va devenir le mien et j'espère celui de mon fils un peu plus tard. » Et donc là, aujourd'hui, tu as deux temps. Celui des rénovations de terrain dans le cadre des JO. Donc, et là, le fait que nous, on voit émerger de plus en plus d'événements sur les playgrounds, de plus en plus de jeunes de la communauté basket organisent des events ultra bling-bling, d'autres des trucs hyper symboliques, beaucoup de 3-3 se fait. Et sur Stalingrad, ce qu'on a expérimenté, c'est les expos, on a fait une block party Panagone, donc expo photo, block party, compétition de e-sport, tournoi féminin, street workout. Donc c'est plus juste des terrains de basket en réalité, c'est des espaces multifonctions et des espaces culturels en réalité à la fin. C'est ça qui va devenir une réalité hyper forte. Stalingrad, on est en train de le redéfinir. Deux, dans le cadre des Halles parisiennes, pour 2024, notre intention, c'est de faire en sorte de réfléchir à comment, quand au JO 92, le basket était devenu le sport le plus populaire en 92 à Barcelone, parce qu'il y avait la Dream Team. Donc là, on est en train de réfléchir comment on fait pour que tous les autres sports sont là. Des fois, il y a des sports que je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas leur visibilité. Je ne vais pas donner de nom, tu vois, mais il y a des sports, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont autant de visibilité. Je ne sais même pas comment tu peux être un athlète pro de ce sport. Et nous... Non. Je suis en garde à vue, je ne donne pas de nom. Là, je suis grave en garde à vue, je ne donne aucun nom. Mais regardez, et puis vous avez aussi vous-même vos sources.
Ils savent, ils veulent pas dire.
Mais vous voulez que ce soit moi la
source. Très bien de quoi tu parles.
Comme on dit chez nous, là, vous voulez manger votre piment dans ma bouche. Non, je ne vous laisse pas faire ça. Mais tu vois, des sports vraiment, que moi, ils sont incompréhensibles. Cependant, moi, j'ai commencé, j'étais plus dans l'athlée quand j'étais plus jeune, athlée, taekwondo jusqu'à mes 12 ans. Et quand je découvre le basket, c'est via la Dream Team. Et moi, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je regarde la télévision, je vois des grands Renois. Je lui dis... J'entendais parler de Michael Jordan, ce n'est pas le souci. Ou Magic Johnson, plutôt, dont j'entendais plus parler. Mais et puis, je vois des highlights. Puis, je vois des trucs, la NBA, Charles Barkley, je le vois, je pète complètement un câble. Et donc, je suis la Dream Team. Et je les vois faire le défilé à Barcelone. Et je vois les gens en train de péter un câble devant... ils sont quoi, 15 à peu près, les joueurs. 14 Renois ou 13 Renois au moins. Trois blancs, Chris Mullin, Larry Bird et Christian Leitner. Je lui dis, c'est quoi ce sport? Quel est le délire à l'intérieur? Et là, on est en train de réfléchir sur comment en 2024, le sport co, qui est le sport numéro un chez les femmes, le basketball, alors que toute la hype, enfin, toute la communication passe autour du foot, alors que c'est le basket qui compte le plus de licenciés côté sport féminin. Le sport qui a le plus d'impact culturel, la marque Jordan, les athlètes à la LeBron, si tu vois, t'as un truc de ouf autour de la culture basket et la culture hip-hop, qui sont deux cultures ultra dominantes. Enfin, le hip-hop est numéro un en termes de vente et d'influence à travers le monde. Le basket a toujours été frère de sang de la culture hip-hop. Les rappeurs aux États-Unis à l'époque, ils tournent des clips, pas sur des terrains de football américain ou de baseball, mais sur des terrains de basket. Les Space Jam 1 et 2, les Blancs à pas sauter. Bref, il n'y a pas. Quel film, quel sport peut dire oui, allez là-bas. Tu vois, c'est le basket qui domine. Et non, là, notre réflexion, c'est vraiment comment les All Parisian Games réussissent à activer un événement, une communication, un documentaire. On n'a rien de réfléchir. Pour dire 2024, le basket va revenir à 1992. Et oui, tu vas suivre tel et tel sport, mais toute la hype passera autour de la culture basket. Parce que hier, quand tu portais une paire de Jordan, on disait, ah, mais vous, les basketteurs, avec vos chaussures de cosmonautes, vos chaussures des chevaliers du Zodiac, ben aujourd'hui, tu sais même pas qui est Michael Jordan, mais tu as une trentaine de paires de Jordan chez toi. Mmh. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui, quoi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas la barrière culturelle? Parce que là, tu parles beaucoup aussi de la culture qui est un peu américaine, entre guillemets. Mmh. Et en France, on a une toute autre culture. Et tu le démontres d'ailleurs par ce qui était dit avant. Tu as des grosses chaussures, etc. Mmh. Là, ça évolue plus avec, même dans la mode, où... on tend plus vers l'urbain, etc. Mais est-ce que tu penses que cette barrière culturelle, elle peut être franchie
Je pense qu'elle se réellement. Fait. Elle se fait aussi par le fait que ceux qui sont les porteurs de cette culture, on se doit, de construire aussi les ponts de communication, un média. Là, on est chez vous aujourd'hui, un podcast, ça nous permet de prendre la parole. Chose qui ne se faisait pas avant. Avant, on disait, ils se réapproprient notre culture. Mais on n'avait pas les canaux de diffusion pour dire que là où c'était haram de mettre jean basket, aujourd'hui, tu vas au boulot comme ça. Mais quand nous, on le faisait, quand nos grands frères le faisaient dans les années 80, c'était un péché de faire ça. Mais là, les gens de la mode quand ils se le réapproprient, eh ben, eux, ils communiquent dessus. Il y a des magazines, ils intellectualisent à un moment donné. Moi, ça, c'est un truc qui me dépasse, par exemple. Comment tu peux intellectualiser la manière de porter des vêtements? Wesh, habille-toi comme tu veux, gros, tu vois. Mais là, on a intellectualisé. Qu'est-ce que tu mets avec quoi? Si tu mets ça, c'est bien. Si tu mets pas ça, c'est pas bien. Ton vêtement te ramène à ça. Ah, ça, c'est notre sujet. Ta manière de t'habiller permet de définir si t'es un footballeur, un basketteur, si t'es un mec de Grigny ou de Sarcelles, un mec du 19e. Les gens disaient à l'époque, un mec du 19e, tu le reconnais parce qu'il porte une paire de Cartier, une veste en cuir et tout, tu vois. Donc, tu identifiais les gens par rapport à leur manière de s'habiller. Pareil pour les femmes. Une femme, sa manière de s'habiller aussi la définit. Dans quel style de mouvement elle est aujourd'hui. Et bien, la barrière culturelle, je pense que c'est à nous de la dépasser, très clairement. En s'inscrivant dans cette dynamique d'intellectualiser, de raconter et de nous positionner aussi sur le marché. Maison Château Rouge, c'est l'histoire de la culture vestimentaire, la culture africaine, d'un jeune qui a grandi en France et qui est attaché à la culture parisienne. Il vient du 93. Le mix entre les deux fait qu'à un moment donné, même son public, c'est même plus les gens des quartiers populaires. Il les a touchés largement avec ses collaborations, mais tu as toute une communauté qui avait absolument rien à voir avec la culture africaine, mais qui se la réapproprie par le vêtement, par la porcelaine, par des objets culturels qui viennent du continent africain, mais qui sont utilisés à Paris par une communauté africaine. Et la barrière culturelle, elle est dépassée par un homme qui est légitime pour pouvoir la promouvoir et porter le business. Eh bien, je pense que les canaux, ils sont ceux-là. C'est... Et tu as bien utilisé le terme de mode. Nous sommes les enfants de la culture. Mais comment nous, les enfants de la culture, on arrive dans le monde de la mode? C'est ça le truc. On n'est pas des enfants de la mode, nous. Nous, on ne change pas. Moi, je suis encore en pot de pêche aujourd'hui. Je ne peux pas mettre les pantalons sautés et serrés là. Je ne peux pas faire ça. Alors, il y a des gens sur qui c'est très joli. Mais moi, je ne peux pas porter ce truc-là parce que ce n'est pas ma culture. Maintenant, c'est une mode de porter ça. Et les gens de la mode, une année sur deux, et bah, ils changent de style. Bah, nous, on est dans la continuité de ce que nous étions hier. C'est ce qui nous a défini. C'est aussi l'introduction du propos qu'on a tenu au début de l'émission. C'est de dire qu'on a un ancrage territorial. On sait exactement d'où l'on vient. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on sait d'où l'on vient. Et selon la périodicité et les activations, les tendances, et bah, nous, on reste ce que l'on est ou on essaie de créer quelque chose qui nous correspond.
Par rapport au fait de dépasser ces barrières-là et par rapport à votre événement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de la communication et du marketing?
D'abord sur la question communication, c'est que si ton histoire elle n'est pas claire, peu importe ta manière de communiquer, les gens ne sont pas complètement idiots. Donc la question de la communication... Elle est quel outil tu vas utiliser, mais avant la question de l'outil, qu'est-ce que tu comptes raconter? C'est hyper important. Nous, je pense et j'espère que vous ne nous verrez jamais faire des tournois de basket pour faire des tournois de basket. On refuse des clients et alors on conseille.
Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de refuser certains clients pour pas...
Exactement. Et donc, ce n'est pas la question de l'argent, c'est la question, un, la spécialité de Paul, le storytelling, l'histoire. Deux, une fois que tu as une histoire, quel outil tu vas utiliser pour pouvoir partager le sujet dont tu souhaites que les gens se réapproprient. Ça, c'est les All Parisian Games, mais en même temps, quand les gens disent le All Parisian, la All Parisian, bah, ça ne nous dérange pas plus que ça, parce qu'il y a quelque chose qui est de la réappropriation du projet. Donc, c'est-à-dire que la communication est bien passée. Après, on est sur la linguistique plus principalement. Sur le concept, il est là. Et sur la linguistique, attention les gars, on ne dit pas le, là, on dit les All Parisian. Sur la question du marketing, bah, tu es obligé de faire en sorte que ton événement, un, il transpire ce que tu es, les porteurs, c'est hyper important. Et que quand tu nous rencontres, et bah, tu vois un lien direct entre nous et l'événement que nous organisons et qu'on ne soit pas hors sol. Et donc, la question du marketing, elle s'adapte constamment par rapport à ce que tu fais. Il est improbable de se dire, OK, dans les écoles de commerce, du marketing, business, de je ne sais pas quoi, c'est comme ça qu'ils font, donc c'est comme ça que nous allons faire. Non, il y a des outils qu'on va réutiliser parce que c'est de la prod, mais sur le reste, tu es obligé de t'adapter parce que le 19e, ce n'est pas le 14e arrondissement. Donc ce que tu fais dans le 14e, pourquoi tu souris comme ça?
Je viens du 14e.
Et c'est pas le 14e. Et c'est pas le 14e. Donc tu vois bien de quoi je parle. Tu vois, quand tu marches dans les rues du 14e, t'es pas du tout dans les rues du 19e, tu vois. Les gens que tu rencontres sur le 14e, c'est pas les gens que tu rencontres sur le 19e. Les commerces, tu vois, la diversité des commerces ou pas, nous on a un problème de gentrification économique sur le 19e. T'as trop de commerces. Alors, c'est bien d'avoir des commerces ethniques. Mais nous, on est ravagés par les épiceries, les baras, mobiles, voilà, je sais pas trop quoi. Le mec, il vend des iPhones, des coques d'iPhone et des oignons. Tu vois, des trucs. Même au bled, on a arrêté de faire ce genre de boutique où tu vends des pneus de voiture et du pain à côté, tu vois. Et ben nous, on est ravagés, on est envahis par ce type de commerce. Donc, ta lecture, tu vois, ta manière de faire du marketing sur le 19e, c'est pas la même que dans le 14e. Et pourtant, dans les clips de rap, dans les shootings photos que je vois de mode et tout, et ben maintenant, de plus en plus, mais devant des épiceries du 19e arrondissement ou devant un commerce exotique, tu vois, des grailles, la nourriture que nous consommons, nous, en Afrique tout court, sur le continent africain, gingembre, devant des feuilles de bissap, et ben tu as des gens de la mode avec pantalon large qui viennent vers 7-8 heures du matin pour faire leur shooting photo officiel. Ils ne viennent jamais après 10 heures parce qu'on est réveillé. Donc ils viennent un peu plus tôt pour faire leur shooting photo. Mais ça, cette question du marketing, c'est quelle image tu renvoies? Qu'est-ce que tu veux définir comme couleur pour identifier Paris comme étant capitale de la culture, de la diversité, alors que tu viens du 14e, du 15e, du 16e? Donc la question du marketing, elle aussi, c'est très intelligent. Tu peux venir d'ailleurs, mais bien comprendre les codes culturels que tu veux renvoyer en image. Et qu'est-ce qui parle aux gens à la fin? C'est ça aussi le truc, c'est que la photo que tu vas poster, il y a une photo ultra populaire, si je reviens sur Maison Château Rouge, d'une daronne en basin bleu avec la paire de Château Rouge au pied. Mais cette photo, elle est simple, mais elle est tellement nous, parce qu'on faisait déjà ça. En réalité, à la fête de l'Aïd, quand on mettait nos grands boubous, mais on met une paire de Jordan au pied. Donc Youssouf n'a rien inventé, il a fait que reprendre les codes à lui, de sa culture. Il en a fait un outil marketing, tout simplement. Donc, c'est ça qui est ultra intéressant. Le marketing et la communication, je pense que pour que ça fonctionne, il faut avoir cette base culturelle qui fait qu'après, au-dessus, ça va se définir et sera joli à voir, tout simplement. Et peu importe, hein, que tu sois africain, asiatique, du Texas, il y a là vraiment la question de ton histoire, la culture. Et ensuite, voilà, utilise les bons outils de communication et le beau code marketing pour que ça puisse fonctionner. Donc, ce n'est pas des ingrédients magiques, c'est juste comment tu doses les ingrédients.
Salut, toi, tu as une formation dans le marketing aussi, il me semble.
Ouais, un petit peu.
Est-ce que tu portes cette vision de la même manière ou vu que c'est une formation marketing que tu as suivie, tu as des codes aussi différents, plus institutionnels, entre guillemets?
Je dirais que les codes, bah, j'ai eu la chance d'évoluer avec Paul et Bakary, donc j'ai l'école, on va dire, de la rue et l'école du master, du coup, que j'ai fait à la Défense. Donc on a une partie, oui, qui est très institutionnelle, qui nous base à se viser sur les chiffres, sur un storytelling bien précis. Mais moi, ce que j'en ressors, et notamment dans le travail que je fais au quotidien, c'est comment on a du sens. Comment on arrive à toucher les bons partenaires, les bonnes personnes par rapport à ce qu'on a envie de raconter. C'est-à-dire qu'on peut avoir une histoire autour du basket, mais si je viens d'ailleurs et que je ne comprends pas les codes et que je n'ai pas cette culture comme Bakary l'a dit, au final, tu peux créer mondes et merveilles, mais ça ne fonctionnera pas parce que le monde du basket, c'est une petite famille. C'est-à-dire qu'on ressent dès que quelque chose est un peu truqué ou tiré par les cheveux. Tu peux essayer de créer la meilleure histoire. Si tu n'as pas la base et que tu n'as pas le cadre fondamental, tu peux pas passer outre. Donc, il faut apprendre cette culture avant de pouvoir se l'approprier et pouvoir la diffuser.
Et la passion aussi. Parce que exactement. Les gens du basket, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et qui retireront, entre guillemets, que ça. Et c'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, c'est ce qui reflète et ce qui donne, entre guillemets, la lumière sur pas mal des projets. Parce que je pense qu'au début, quand tu es dans un projet associatif, et c'est la passion qui va t'emmener, les gens qui jouent au basket aussi, pareil. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un playground n'importe où, hein, les règles sont les mêmes. Mais les mecs qui sont déter, qui vont jouer, au final, c'est ça. Et par, rapport à ce que vous avez dit tous les deux, je pense qu'aujourd'hui, le marketing, il est en train de changer. On voit, bon, vous devez le savoir, il n'y a plus trop de genres dans certaines marques, etc. Tout se réorganise parce que je pense qu'il y a une confusion dans ce qui est créé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau de la mode, par exemple, quand tu dis qu'un mec vient à 7h du matin pour faire des photos genre « voilà, je suis dans le 19, Paris, c'est comme ci, c'est comme ça », Paris à 7h du matin, c'est pas le Paris à 9h, c'est pas le Paris à 17h, et encore moins le Paris à minuit. Et moi, j'aimerais qu'une personne qui va venir, par exemple, pendant des JO, qui va venir à Paris, fais un tour de 24 heures. Mmh. Fais vraiment 24 heures et là, tu vas te rendre vraiment compte des choses. Parce qu'aujourd'hui, un touriste qui dit « Ouais, je suis allé à Paris, j'étais à Pigalle » ou « Je suis allé à Paris, j'étais dans un hôtel juste à côté des champs » ou « à côté de la Tour Eiffel », gars, selon l'heure, si t'es sorti à 15 heures, ça n'a rien à voir. Donc, tout ça, donc,
mais je pense que les mentalités, elles évoluent. Parce que les personnes, elles comprennent aujourd'hui que voilà, le Paris, tu passes par la Tour Eiffel et Pigalle, bah, c'est plus le Paris... que les gens connaissent, parce que les marques et notamment les institutions commencent à montrer le vrai Paris. Le passage à Stalingrad, qui est emblématique, commence à rentrer dans les maps. Et les gens veulent voir le vrai Paris, pas parce que c'est beau, c'est chic, mais pour le vrai Paris, pour ce pourquoi les gens sont là. Quand il y a un événement, pourquoi tout le monde se regroupe. Et que tu sois basketteur ou non-basketteur, tu viens à un événement, mais tu ressens cette énergie que tu ne peux pas exprimer, mais parce que tu es là et parce que tu le vis. Quoi.
Non, c'est clair. Avec les nouveaux cross, avec le côté où aujourd'hui, je pense que Paris est en train de consommer le sport d'une manière un peu nouvelle. Et aujourd'hui, tu pourrais aller voir un match de foot le mercredi, un match de basket le jeudi, un combat de MMA le vendredi, le dimanche, aller voir du tennis. Et là, on est en train de rentrer dans un nouveau truc où ça va vraiment, vraiment évoluer. Les JO vont nous emmener aussi dans ce sens-là. Les marques vont jouer le jeu aussi à fond. Les partenaires privés, publics vont jouer aussi ces cartes-là. Quand tu vois le positionnement aujourd'hui de marques, entre guillemets, de transformation digitale, pourquoi elles sont aussi présentes autour du sport? Parce qu'il y a une évolution, il y a de la data, il y a du monde, il y a des infos. Et voilà, donc je vous souhaite vraiment de prendre ce créneau-là, j'ai l'impression que vous le faites déjà, parce que il y aura un vrai boom. Aujourd'hui, quand tu vois Cisco partenaire des JO, ça a du sens pour tout le monde. Ouais. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était EDF. Donc les gens, ils étaient là, EDF, nanana, avant que ça change. Bah là, aujourd'hui, c'est ce qui est encore plus numérique, plus digital. Et voilà.
Avant de conclure ce podcast, j'aimerais savoir quel investissement ça nécessite un événement comme les Halles Parisiennes Games. Je ne vous demande pas forcément un chiffre précis, mais vous avez commencé par investir vos propres sous. Vous étiez des producteurs. Ensuite, il y a des sponsors qui se sont greffés à votre événement. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut entreprendre ou qui veut produire ce genre d'événement, qu'est-ce qu'il devrait investir en termes de budget dans un événement comme le vôtre?
Et la question par rapport au prix, vous ne vous donnez pas de chiffres, mais ça équivaut à quoi? Une paire de Jordan que vous n'avez pas pu acheter? Une paire de Jordan qu'on essaye d'acheter ou qu'on doit acheter en resell? Parce que ça, c'est une grosse différence aujourd'hui. C'est
une vraie différence. Pour moi, c'est une vraie différence. Non, on peut donner des chiffres, c'est pas du tout un souci, mais les chiffres, ils voudront dire et rien dire en même temps, vraiment. Et c'est pas pour échapper à la question. Le premier investissement, il est de prendre une lame de rasoir, de s'ouvrir et de mettre ton sang dans un verre. C'est ça qu'on a fait déjà, c'est qu'on a donné notre sang, vraiment. Parce que Paul et moi, voilà, on a un peu plus de 40 ans, marié, des enfants. Et moi, j'ai été à deux doigts de divorcer presque tous les mois pendant 3-4 ans. Parce qu'après le taf, il fallait se voir jusqu'à 2h du matin, il fallait rentrer. Il y en a marre de ton Paul là, on dirait que t'es marié avec lui. T'as compris, là, c'est pas de l'argent ça. Tu vois, ouais, vous êtes chelou vous deux, nanana, toujours. Où est-ce que vous allez exactement? Bref, t'as compris, le capitaine à la maison là, il était pas content de cette histoire d'investissement. Et de temps qu'on donnait à essayer de débloquer une situation parce qu'on ne voulait pas organiser un tournoi de basket. Ce n'était pas ça qu'on voulait faire. Donc, c'est la culture, le social, la valorisation des jeunes, Paris, le 19e et tout. Plein de sujets avant de se dire, OK, ça va s'appeler les All Parisian Games, team bleu, team rouge, les filles seront autant valorisées, pour ne pas dire plus, que les garçons, et ainsi de suite. En termes financiers, je crois que ça nous a coûté dès le début, sur des chiffres, à peu près 5K, dès le début, sur un an. Ça ne veut rien dire, parce qu'en réalité, on a rencontré plein de gens entre-temps, des professionnels qui nous ont dit clairement, je ne me serais même pas lancé dedans. Des pros de la prod, des gens, des spécialistes pour des très grosses marques qui disent, c'est des entrepreneurs, pour 5K, je ne me serais pas lancé. Parce que entre les mots utilisés, les tableaux qu'on a montés et le budget qu'on avait entre nos mains, c'était impossible de monter cet événement. Nous, on s'est quand même lancé dedans parce que c'est la question du sang. Parce qu'on s'est dit, on va. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais on y va. Aujourd'hui, en 2022, c'est un événement qui vaut à peu près, donc depuis 2017 à aujourd'hui, hors question du Covid, c'est un événement à 500K, à peu près. 500K, pas sur la journée, jamais de la vie. Et puis, je suis un soninké, donc il est hors de question que moi, j'aille mettre 500K sur un projet d'un jour. Et je ne suis même pas sûr que je vais rentabiliser derrière. Et tu peux me raconter toutes les histoires de marketing et de communication. Je reste un soninké et je vais faire un arrêt cardiaque si j'apprends qu'on a dépensé autant d'argent de 14h à 18h. Et donc, c'est plutôt 500K du 1er janvier au 31 décembre aujourd'hui qui sont dépensés sur la logistique, sur les moyens humains, sur les espaces que nous avons, donc nos bureaux, les espaces de prod, le consulting, les prestats, les graphistes, toute l'équipe là, des jeunes qui sont autour de nous. Vous voyez Sally comme ça, là, mais Sally mange pour 2-3 hommes. En réalité, donc chaque fin de
journée,
la facture pour Sally, c'est au moins 37 euros pour le déjeuner et le dîner, j'en parle même pas. Donc Sally nous coûte, elle, toute seule, cher, et on en a au moins 10 comme ça. Donc, tu as 504 dépenses au moins par an pour produire les All Parisian Games. Tu as quasiment 4 étapes de sélection. Tu as tout le merch, tous les produits performance, maillot, short, paire de chaussures. L'accueil des joueurs, toute l'équipe de prod, ça, à chaque fois je démonte mon bras, je pose sur la table en disant voilà, vous avez déjà mon bras, donc prenez pas le second, la photo, la vidéo, les réseaux sociaux. Et pourtant, on est hyper économe sur ce projet parce qu'encore une fois, nous aussi, on est à l'origine ce que nous sommes, et ben, des enfants de la pauvreté, des prolétaires, et on essaie de faire toujours plus avec le budget que nous avons. Là où ça vaut 5K hier, ben on faisait finalement pour 150. Là où ça vaut 500 aujourd'hui, on essaie de le faire pour 1,5 million. Voilà la réalité d'un projet comme celui-là. Et sûrement demain, quand on organisera, donc les jeunes proposent que de sortir d'un événement qui fait... toute l'année, on est hyper actif avec la communauté, mais la journée de festivité, au lieu qu'elle se fasse juste sur le samedi, qu'elle devienne les All Parisian Weekend. Okay. Donc ça commence dès le jeudi pour finir le dimanche et que tu aies plein d'activations à l'intérieur. Donc là, faites le calcul, on sera sorti à des 500K très très vite. Mais pas impossible, pas exagéré, mais il faut juste que derrière le modèle économique il soit bien réfléchi et qu'on ne devienne pas le truc ultra ridicule du système associatif où tu prends un budget, tu l'éclates et après tu reviens demander de l'argent derrière. Et je dis bien ridicule parce que ça l'est. Ça l'est de dépenser. Que tu dépenses 100 euros ou 1 million d'euros, ce n'est pas la question du montant. C'est surtout le truc de toujours être la main tendue à chaque fois. Je demande de l'argent, j'éclate l'argent, je reviens encore en demander et le jour où on ne me donne pas, ben je me mets à pleurnicher. Oui, mais vous ne me donnez plus d'argent. Ben là, on essaie de penser quelque chose, encore une fois, et moi je conclue sur ça, j'ai trop parlé aujourd'hui. C'est vraiment la question de, on fait avec nos différents partenaires et le jour où ils décident, pour plein de raisons, bonnes, pas moins bonnes, des questions de business pour eux, ils décident de se retirer, comment on fait pour que l'ADN du projet, la raison pour laquelle il est né hier, bah, ça continue à perdurer. Okay.
Paul, Sally, un message pour conclure, quelque chose à rajouter pour conclure, Mam?
Bah, peut-être ouais, juste pour compléter les propos de Bakary et ta question sur l'investissement. Je pense que, en tout cas, si c'est un conseil à des futurs entrepreneurs, bah, il faut travailler sans compter. Et ça va au-delà de l'argent qu'on est prêt à investir aujourd'hui. C'est vraiment de ne pas avoir peur de travailler, de faire preuve d'humilité aussi, parce que il faut savoir les raisons pour lesquelles on entreprend. Et si on n'a pas, si on n'est pas prêt, enfin si on n'a pas les, si c'est pas les bonnes motivations, on n'ira pas loin, parce qu'il faut être prêt à encaisser les coups durs, les échecs, savoir rebondir, comme je disais tout à l'heure, savoir se remettre en question, faire preuve d'humilité. Et si on le fait pour les mauvaises raisons, bah on n'aura pas la capacité à encaisser tout ça. Donc il faut être prêt. Enfin, je veux dire, en réalité, l'entrepreneuriat, vous le savez, c'est du sport de haut niveau. Donc finalement, les mêmes sacrifices qu'un athlète de haut niveau fait pour sa carrière sportive, bah, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Sauf que le d'être sur la piste ou sur le terrain, bah, on est dans un bureau ou dans un café avec un ordi, avec un téléphone. Et voilà. Donc en tout cas, j'encourage les jeunes, les moins jeunes aussi à entreprendre, pour ceux qui sont prêts, et puis les autres, bah, faites autre chose, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il faut aussi qu'on soit franc. L'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi, même si on entend de plus en plus c'est des gens incités à l'entrepreneuriat, à truc, bah oui, enfin oui, ceux qui le souhaitent, quoi. Je veux dire, chacun est fait pour un type de projet. Celui qui est prêt à entreprendre, celui ou celle qui est prêt à entreprendre, qu'il le fasse. Celui qui souhaite avoir une carrière de sportif de haut niveau, voilà. Celui qui veut être salarié d'une boîte, travailler dans l'économie sociale et solidaire, peu importe, il n'y a pas de bon et de mauvais parcours. Et je pense que c'est important de le rappeler, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Ceux qui veulent le faire, bah, même ceux qui ont besoin de conseils, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Les autres, qu'ils n'aient pas honte, parce que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus fréquent, qu'ils n'aient pas honte à se dire qu'ils veulent une vie, entre guillemets, tranquille, et c'est tout aussi noble. Donc je pense que c'est quand même un discours qu'il faut arriver à déconstruire un petit peu en ce moment. L'entrepreneuriat, c'est pas cool. Si on aime, bah, on souffre et on accepte cette souffrance. Mais si on n'est pas prêt, il faut faire autre chose.
Ouais. Et surtout pour les gens mariés, sinon c'est...
Et pour rebondir sur vos propos, ouais, moi je pense le message à faire passer aujourd'hui, c'est nous, on a un collectif d'une dizaine de personnes qui sont passionnées et qui aiment ce qu'on fait au quotidien, et on entreprend. Moi j'ai 24 ans et j'entreprends, et Paul et Bakary m'ont vraiment soutenue depuis mes premiers jours, et je suis la seule fille de ce collectif. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est encore plus difficile pour une fille d'entreprendre, mais c'est pas impossible. Et la preuve, et moi j'aimerais juste faire passer ce message-là, qu'il n'y a pas de limite, si ce n'est qu'on se les met soi-même. Et on est dans une société qui nous pousse à nous mettre dans un cadre, voilà, maison, boulot, dodo. Mais c'est à nous aussi de prendre des initiatives et savoir ce qu'on a réellement envie de faire.
Non, je pense que c'est clair. Hein. Mmh. Je pense que le mot de la fin est très très beau. Après, je regarderai juste du coup les partenaires entre guillemets alimentaires pour réduire les factures de Bakary.
Bakary, il a dit n'importe quoi.
Je vous envoie des images. Non, parce qu'il n'y a que si tu envoies des trucs factuels que vous allez dire.
Oui, c'est vrai.
Ouais, je vous envoie des photos.
Oui, mais si tu envoies des photos.
J'envoie des photos de tickets de caisse et des scouts autour de toi.
Ça va. Merci.
En tout cas, merci à vous tous.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu présent.
Merci beaucoup.
Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.